On se prend un café le matin, on reçoit une notification de virement de salaire, on commande un truc en ligne. On fait ça tous les jours sans vraiment y penser.
Oui, ce sont des automatismes.
Mais ce sont bien plus que des gestes isolés. En fait, chacun d'eux est un maillon d'une chaîne immense, presque invisible, qui nous relie tous. Aujourd'hui, on va plonger dans ce qu'on appelle le circuit économique. L'idée, c'est de comprendre un truc essentiel. L'argent, il vient d'où, il va où et comment tout ça tient ensemble. Pour ça, on s'appuie sur une synthèse qui cartographie ce système et notre but, c'est vraiment de la rendre limpide. On va suivre le voyage d'un simple euro, celui de notre café, pour voir où il nous mène.
Et cette idée de suivre un euro, c'est une excellente image. Pour se représenter ce circuit, la meilleure métaphore, c'est vraiment celle du système circulatoire du corps humain. L'économie a ses artères, ses veines, et ce qui circule dedans, c'est l'argent, bien sûr, mais aussi les biens, les services. C'est ce qui nourrit chaque organe, chaque partie du système. Le point clé à garder en tête, c'est l'interdépendance totale. La moindre décision.
Même l'achat de ce simple café.
Exactement. Cet achat envoie une pulsation à travers tout le réseau.
Bon, alors, allons-y. Le point de départ, c'est que dans ce système, il y a deux choses qui circulent en même temps. Mais en sens inverse, c'est la première grande idée du document. On parle de flux réels et de flux monétaires.
Exactement. Commençons par le concret, les flux réels.
D'accord.
C'est tout ce qui est tangible, ou presque. Quand on achète un café, le café lui-même, c'est le flux réel.
Ah oui?
Quand on travaille pour une entreprise, notre temps et notre compétence, c'est aussi un flux réel. En face, il y a toujours la contrepartie financière, les flux monétaires.
L'argent.
Voilà. Pour le café, c'est l'euro qu'on a payé. Pour le travail, c'est le salaire qu'on reçoit. La règle d'or, c'est que l'un ne va jamais sans l'autre et ils vont toujours en sens opposé. Le café vient vers moi, l'argent part de moi.
D'accord, c'est clair. Donc, on a du concret et de l'argent qui bouge. Mais entre qui sont les grands joueurs de ce système?
L'analyse en identifie cinq qu'on appelle les agents économiques. Le premier, c'est nous, les ménages. Notre rôle principal, c'est de consommer et de fournir notre travail.
C'est ça.
Le deuxième, ce sont les entreprises qui produisent ce qu'on consomme. Jusqu'ici, c'est assez simple. Oui, ça, c'est la base. Mais ça se complexifie un peu avec les trois autres agents qui viennent structurer le tout. On a d'abord les administrations publiques, en gros l'État. Son rôle, c'est de réguler et de redistribuer les cartes.
Mmh.
Ensuite, il y a les institutions financières, les banques principalement, qui agissent un peu comme le cœur du système, en faisant circuler l'argent. Et enfin, le cinquième acteur, c'est le reste du monde.
Ah oui, l'extérieur.
Forcément, parce que notre économie n'est pas une bulle isolée, elle échange en permanence avec l'extérieur via les importations et les exportations.
Ok, on a les acteurs et les flux. Mais ce qui est fascinant, c'est comment tout ça s'emboîte. L'idée centrale, s'il est bien tout suivi, c'est que ma dépense devient forcément le revenu de quelqu'un d'autre. C'est ça le moteur du réacteur.
C'est exactement ça. Chaque euro dépensé continue sa vie ailleurs. Reprenons notre café. L'euro que j'ai donné au café du coin est une dépense pour moi.
Oui.
Mais pour la propriétaire du café, c'est un revenu. Et cet euro ne s'arrête pas là. Elle va l'utiliser pour payer le salaire de son employé. Pour elle, c'est une dépense, mais pour l'employé, c'est un revenu.
Et ainsi de suite.
L'employé, à son tour, va utiliser cet argent pour payer son loyer. Et ça continue. Ce cycle production-revenu-dépense, c'est le battement de cœur permanent de l'économie.
C'est vertigineux quand on le voit comme ça. Cette boucle entre les ménages qui travaillent et les entreprises qui les payent, c'est donc la base de tout. Les gens reçoivent un salaire, et avec ce salaire, ils achètent les produits fabriqués par les entreprises qui les emploient. La boucle est bouclée.
C'est le cœur de l'économie réelle, oui. Mais bien sûr, on ne dépense pas tout notre revenu. Une partie est épargnée. Et c'est là que le rôle des banques devient crucial.
Justement, j'allais y venir. On a souvent l'impression que l'argent qu'on met sur un compte épargne, il est en quelque sorte sorti du circuit, qu'il dort. Mais d'après ce que je lis, ce n'est pas du tout le cas.
Non, et c'est un point absolument fondamental. Cet argent ne dort pas, il est réinjecté. Quand on dépose notre épargne à la banque, celle-ci va collecter l'épargne de milliers de personnes et la prêter à des entreprises qui veulent investir.
Pour acheter des machines, construire des bureaux.
Par exemple, oui, lancer un nouveau produit. L'analyse qualifie ce mécanisme de « moteur de la croissance » parce qu'il transforme une multitude de petites épargnes en force d'investissement massive. Les banques sont les intermédiaires qui empêchent l'argent de s'arrêter.
D'accord. Mais cette vision d'un circuit parfait où l'épargne est immédiatement réinjectée, c'est le modèle idéal, non? On entend souvent dire que les entreprises ou les ménages très riches thésaurisent leur argent, qu'ils le stockent sans le dépenser ni l'investir. Est-ce que le modèle prend en compte ces fuites du circuit?
C'est une excellente question. Et ça touche à l'un des grands débats en économie. Le modèle de base suppose que toute épargne est investie. En réalité, il peut y avoir des fuites, comme vous dites. Si les gens ont peur de l'avenir, ils peuvent préférer garder leur argent sous le matelas ou sur des comptes courants.
Et les entreprises aussi?
Oui. Si les entreprises manquent de confiance, elles n'empruntent pas pour investir. C'est là que le circuit peut ralentir, voire gripper. Et c'est précisément dans ces moments que le troisième acteur, l'État, entre en scène.
L'État qui vient donc jouer les régulateurs. Concrètement, il prélève sa part du gâteau avec les impôts et les cotisations, et cet argent, lui aussi, réintègre le circuit.
Oui, mais d'une manière différente. L'État prélève l'argent là où il se trouve, sur les salaires, les bénéfices, la consommation, et le réinjecte ailleurs, selon des objectifs politiques et sociaux. C'est la fameuse fonction de redistribution.
Mmh.
Une partie de cet argent revient aux ménages sous forme d'allocations, de retraites. Une autre partie va subventionner certaines entreprises. Une autre encore paye les salaires des fonctionnaires, infirmières, enseignants.
Qui, à leur tour, vont consommer.
Exactement. L'État agit comme un grand répartiteur qui modifie les flux pour corriger les inégalités ou soutenir l'activité.
Il nous reste le dernier acteur allié, le reste du monde. Comment est-ce que ça s'intègre? Si j'achète un téléphone fabriqué en Corée, mon argent quitte le circuit français, non?
Totalement. C'est une importation, donc une sortie d'argent du circuit national. À l'inverse, si une entreprise française vend un Airbus à une compagnie américaine, c'est une exportation. De l'argent étranger entre dans notre circuit. C'est un revenu pour la France. L'équilibre entre ces entrées et sorties est crucial. Un pays qui importe beaucoup plus qu'il n'exporte voit son argent fuir en permanence vers l'extérieur, ce qui peut peser sur sa croissance.
Cette vision d'un système organisé, ça semble très moderne, mais en fait, l'idée de cartographier l'économie comme ça est étonnamment ancienne. L'analyse nous fait remonter jusqu'à la France de Louis XV.
Absolument. Le premier à avoir tenté ça, c'est François Quesnay, en 1758, avec son tableau économique. C'était un esprit brillant, il était le médecin du roi, et il a vraiment essayé d'appliquer à l'économie une logique de circulation, comme celle du sang. Il voyait la société divisée en trois classes. Il y avait la classe productive, pour lui c'était uniquement les agriculteurs, car seule la terre pouvait créer de la richesse nouvelle.
Ce qui, avec le recul, est une vision assez limitée.
Très limitée, bien sûr, mais révolutionnaire pour l'époque. Ensuite, il y avait la classe des propriétaires, la noblesse, le clergé, qui possédait la terre et ne faisait que toucher la rente.
D'accord.
Que la richesse se reproduit et circule selon des règles et qu'il existe un équilibre global.
Faisons un bond de presque deux siècles. On arrive en 1936, en pleine crise économique et un nom incontournable cité dans les documents. John Maynard Keynes. Le schéma de Keynes est très élégant, mais il paraît presque trop simple pour le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a changé de si fondamental?
Il a retourné la table. Pour tous les économistes avant lui, que ce n'est compris, la logique était « l'offre crée sa propre demande ».
C'est-à-dire?
En clair, on produit des biens, ce qui distribue des revenus, et ces revenus permettent d'acheter la production. C'est la production qui est le moteur. Keynes, lui, face à des millions de chômeurs et des usines à l'arrêt, dit « c'est l'inverse qui est vrai, c'est la dépense qui détermine le revenu ».
Ah, d'accord.
Le vrai moteur, c'est la demande globale, ce que les ménages consomment, ce que les entreprises investissent et ce que l'État dépense. Si personne ne dépense, les entreprises n'ont aucune raison de produire et d'embaucher et le circuit s'arrête.
Et cette idée n'est pas que de la théorie. C'est la logique exacte derrière les plans de relance qu'on a vus récemment, par exemple pendant la crise du Covid.
Exactement. Les chèques de relance ou les aides directes aux entreprises, ce n'est rien d'autre qu'une application de cette idée. L'État n'a pas juste donné de l'argent, il a injecté de la dépense directement dans les veines du circuit en espérant forcer la création de revenus en aval.
Pour éviter que tout ne se grippe.
Voilà. C'est un changement de perspective radical qui justifie l'interventionnisme de l'État en période de crise.
D'accord. Mais aujourd'hui, j'imagine qu'un organisme comme l'INSEE en France ne se contente pas de ce grand schéma. Concrètement, comment passe-t-on de cette grande idée à un modèle qui fonctionne pour l'économie du XXIe siècle?
On passe de l'esquisse à une carte ultra détaillée. Les modèles modernes intègrent ce qu'on appelle la comptabilité nationale. On ne parle plus de flux en général, mais de milliers de données chiffrées sur tout ce qui est produit, consommé, investi. On utilise des agrégats. Et tout ça est organisé dans un cadre très strict, qu'on appelle le système de double entrée emploi-ressources.
Ça sonne très technique. Ça veut dire quoi en simple ?
C'est comme un gigantesque livre de comptes pour toute la nation. L'idée est simple. Chaque euro de ressources, donc tout ce qui est produit dans le pays plus tout ce qu'on importe, doit forcément se retrouver quelque part en emploi. Tout ce qui est consommé, investi ou exporté.
D'accord.
Il ne peut pas y avoir un euro qui disparaisse dans la nature. C'est un système étanche qui force une cohérence mathématique totale.
Millions d'entreprises et 29 millions de ménages. C'est fou. J'imaginais un chiffre élevé, mais je ne réalisais pas que le circuit devait connecter autant d'acteurs, juste au niveau des entreprises. Chaque jour, des milliards de transactions font tourner cette machine.
Et encore, ça, c'est juste l'échelle nationale. Zoomez encore d'un cran. Au niveau européen, des organismes comme la Banque Centrale Européenne ou Eurostat s'assurent que les circuits de chaque pays de la zone euro sont calculés de la même manière.
C'est pour pouvoir comparer, j'imagine.
C'est la condition sine qua non pour pouvoir piloter une monnaie unique comme l'euro. Il faut que tout le monde parle le même langage comptable.
Et puis, par-dessus tout ça, il y a la mondialisation, qui a dû rendre le tout encore plus complexe.
La mondialisation a fait exploser le circuit traditionnel. L'analyse met en lumière trois évolutions majeures. La première, c'est l'émergence des chaînes de valeur mondiales.
C'est-à-dire ?
Prenons un simple yaourt dans notre frigo. Le lait vient peut-être de France, mais le plastique du pot vient du pétrole du Moyen-Orient, l'étiquette a été imprimée en Espagne et les ferments lactiques produits au Danemark. Ce simple yaourt est le produit d'un mini-circuit économique mondial.
Un produit n'est plus fait en France, il est fait dans le monde.
Voilà, ce qui doit rendre le suivi des flux incroyablement difficile.
J'imagine.
Deuxième évolution, l'importance croissante des flux financiers internationaux, qui sont gigantesques et souvent déconnectés de l'économie réelle.
La spéculation.
En partie, oui. Des milliards de dollars peuvent traverser la planète en une microseconde. Ces flux sont bien plus rapides, plus volatiles. Et enfin, troisième point, ce sont les transactions numériques. Le e-commerce, le streaming, le cloud. Tout ça redessine les frontières et la nature même des échanges.
Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Si on doit résumer le message principal qui ressort de cette exploration, c'est que l'économie est un système où tout est lié, de manière quasi organique. Une perturbation à un endroit se propage partout.
C'est le point essentiel. Que ce soit une crise de confiance des ménages qui arrêtent de consommer, une crise bancaire qui bloque les prêts, ou un choc externe comme une pandémie, les ondes de choc se répercutent sur tout le circuit. Comprendre ce circuit, ce n'est donc pas juste un exercice intellectuel. C'est avoir la carte routière du système. Sans cette carte, les gouvernements et les banques centrales naviguent à l'aveugle.
Et pour finir, je voudrais rebondir sur ce que l'analyste disait à la fin sur la complexité croissante due au numérique. Ça ouvre une question assez vertigineuse. On voit monter en puissance des phénomènes comme les crypto-monnaies ou la finance décentralisée qui, par définition, cherchent à opérer en dehors du système bancaire et étatique traditionnel. Comment est-ce que ces nouveaux réseaux pourraient redessiner, voire court-circuiter ce circuit économique qu'on vient de décrire ? Ce modèle, hérité de Quesnay et Keynes, est-il encore vraiment adapté pour le monde qui vient ? C'est une pensée à méditer.